pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Un requin orange a été découvert et ce n'est pas un poisson d'avril. Un texte de Marie Bernier, paru le 2 septembre 2025 dans les As de l'info. Non, tes oreilles ne te jouent pas un tour. Un requin d'une couleur très inhabituelle a bel et bien été découvert. Il était orange vif. Ce sont des pêcheurs qui ont fait cette rencontre surprenante dans les eaux du Costa Rica en Amérique centrale. Tu te demandes ce qui explique cette drôle de couleur? Des scientifiques ont percé le mystère. Ce curieux requin, ou rouquin, nageait à 37 mètres de profondeur quand il a été capturé par des pêcheurs en 2024. Imagine leur surprise. En plus de son teint orangé, les yeux du requin étaient complètement blancs. Étrange. Les pêcheurs n'avaient jamais rien vu de tel. Ils ont décidé de relâcher l'animal, mais avant, ils ont pris soin de le photographier. Ils ont ensuite envoyé les images à des scientifiques pour qu'ils étudient le phénomène. Un an plus tard, les chercheurs nous donnent des nouvelles. Dans le magazine spécialisé Marine Biodiversity, on apprend finalement pourquoi ce requin n'a pas la peau gris-brun, comme les autres membres de son espèce, les requins nourrissent. Mais alors, qu'y a-t-il de spécial? Les chercheurs ont déterminé que ce requin est atteint non pas d'une, mais de deux mutations génétiques. Cela signifie que ce sont ces gènes, les minuscules informations contenues dans ces cellules, qui expliquent son apparence hors du commun. D'abord, ce requin est atteint de xanthisme. C'est un trouble des pigments de la peau qui la rend jaune ou orangée. C'est la première fois qu'un xanthisme total est observé chez un requin. Mais ce n'est pas tout. Ce requin est également albinos. C'est ce qui explique ses yeux blancs au lieu de noirs. Les scientifiques ont constaté que ce requin ne semble pas du tout dérangé par sa couleur. On pourrait croire qu'être aussi voyant nuit à la chasse, mais non. Il mesurait environ 2 mètres et était bien vigoureux. Des signes d'un requin en pleine forme. Et si on s'amusait à trouver un nom à ce requin orange? Tu as des idées? Découvre le handball avec une championne. Un texte de Maxime Ouellette paru le 30 août 2025 dans les As de l'info. As-tu déjà entendu parler de handball? C'est un sport très populaire en Europe, mais peu connu au Québec. J'ai eu la chance de discuter avec une jeune joueuse de handball, Amélie Leclerc, qui vient de remporter un grand tournoi avec l'équipe canadienne féminine junior. C'est quoi le handball? Ce sport collectif aurait vu le jour au Danemark, en Europe, dans les années 1800. En gros, deux équipes de 7 joueurs s'affrontent pendant 2 périodes de 30 minutes. L'objectif du jeu est simple. Il faut se passer le ballon et le lancer dans le filet adverse. On utilise toujours les mains. L'équipe avec le plus de buts à la fin de la partie gagne. Peu connu en Amérique du Nord, ce sport est très populaire en Europe. Il s'agit d'un jeu rapide et physique, demandant de l'adresse et surtout une bonne stratégie d'équipe. Les meilleurs joueurs au monde peuvent gagner plusieurs millions de dollars chaque année en y jouant. Une expérience en or. Amélie Leclerc, qui fait partie de l'équipe canadienne, m'a parlé de son expérience au trophée féminin junior de l'IHF, un tournoi de handball qui a eu lieu du 16 au 20 juillet à Drummondville. Il opposait des équipes émergentes de l'Amérique du Nord. Les Canadiennes ont vraiment bien joué et ont gagné 4 matchs sur 5. Elles ont donc terminé première et se sont qualifiées pour le championnat du monde junior féminin. C'est la première fois que le Canada gagne depuis 1999, il y a 27 ans. C'était vraiment super. La chimie entre les filles était très forte, explique Amélie. Pour elle, il s'agissait d'une expérience très spéciale puisque c'était la première fois qu'elle représentait son pays devant ses amis et sa famille. Mon meilleur moment, c'était notre victoire contre le Groenland. C'était incroyable de gagner devant mes proches, raconte la jeune joueuse. Amélie a commencé le handball lorsqu'elle était en quatrième année. Depuis, elle joue dans une ligue québécoise. Selon elle, essayer le handball, c'est s'amuser garanti. C'est tellement plaisant comme activité. J'adore ça parce qu'on est impliqué dans tous les aspects du jeu, témoigne Amélie. Et toi, as-tu déjà essayé le handball ou un autre sport peu connu? Dis-moi lequel. C'est quoi l'IA? Un texte de l'équipe des As paru le 28 août 2025 dans les As de l'Info. Cet article fait partie de notre nouvelle série « Y as-tu pensé? » dans laquelle on t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle technologie. Évolution, force, limite, impact, pour que tu puisses réfléchir sur sa place dans la société. As-tu déjà été servi par un robot au restaurant? Ou vu un aspirateur se promener seul pour balayer le plancher? Peut-être as-tu déjà posé une question à Siri ou utilisé une application pour connaître le titre d'une chanson que tu entends dans un magasin? Tous ces exemples ont un point en commun. Ils fonctionnent grâce à des logiciels utilisant l'intelligence artificielle IA. Comme tu peux le voir, l'IA permet à toutes sortes de machines d'accomplir des tâches très différentes. C'est pourquoi il est difficile parfois de définir précisément cette technologie. Analysons quelques exemples ensemble. Aux États-Unis, des chercheurs ont appris à un ordinateur à reconnaître les aboiements de chiens grâce à l'intelligence artificielle. Il peut ainsi déterminer s'ils sont joyeux, stressés ou calmes. Un peu comme s'ils comprenaient leur langage. En fait, même si une IA peut reconnaître l'aboiement d'un chien, il ne sait pas du tout ce qu'est un chien. Un ordinateur ne ressent ni la joie de courir, ni la peur de l'orage. Il se contente de classer des sons et d'associer des émotions en les comparant avec d'autres données qu'on lui a montrées au préalable. Regardons un autre exemple. Avant de poser une question à ChatGPT, tu lui écris « Salut, comment tu vas ?» Il te répond « Je vais bien, merci. » Ça ressemble à une interaction que tu pourrais avoir avec un ami. Même si certaines IA peuvent imiter des comportements humains comme exprimer des émotions ou être poli, les IA ne ressentent rien du tout. Elles ne comprennent pas ce que ça veut dire être heureux ou triste. ChatGPT dit cette phrase parce que c'est ce qu'elle a appris à dire dans ce genre de contexte. Et que penses-tu de ceci? Il y a quelques années, deux autobus sans chauffeur ont circulé dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Ces véhicules étaient pilotés par un logiciel utilisant l'IA et roulaient seuls grâce à des capteurs et des caméras imitant les yeux et les oreilles du chauffeur. Mais alors, c'est quoi une IA? En informatique, un programme est une liste d'instructions qui dit à une machine quoi faire, un peu comme une recette de cuisine. Par exemple, quand ton réveil sonne à 7 heures du matin parce que tu as programmé une alarme, il suit une instruction. À 7 heures, fais du bruit. Les IA, elles, sont des programmes spéciaux. Ils suivent des instructions aussi appelées algorithmes qui leur permettent de s'adapter à différentes situations. Comment? En analysant beaucoup, beaucoup de données. Reprenons l'exemple du réveil. Si on y ajoute une intelligence artificielle, il pourrait détecter ta respiration et tes mouvements pendant la nuit, puis choisir de sonner au moment où tu dors moins profondément pour que ton réveil soit plus agréable. Comment ça fonctionne? Pendant son développement, les informaticiens lui ont montré beaucoup d'exemples de mouvements ou de respiration pendant le sommeil d'autres personnes. En analysant ces données pour y trouver des tendances, il peut déduire à quel moment ton sommeil est le plus léger. Psst, psst. On dit intelligence artificielle parce que ce sont des programmes qui imitent ce que les humains savent faire avec leur cerveau. Maintenant que tu sais mieux ce qu'est l'IA, dis-nous ce que tu imagines quand tu penses à elle. Ta réflexion fait grandir notre intelligence à tous. Des plantes déménagent à cause du climat. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 28 août 2025 dans les As de l'Info. Autrefois, nos forêts et jardins accueillaient surtout des plantes bien adaptées au froid. Mais aujourd'hui, avec le climat qui se réchauffe, de nouvelles espèces poussent là où elles n'auraient jamais survécu avant. Pour savoir quoi planter à quel endroit, le gouvernement a créé une carte très pratique pour les jardiniers. Explorons ça. Toutes sortes de climats au Canada. Le Canada est immense, ce qui fait en sorte que le climat n'est pas le même partout. Tu peux voir les grandes différences sur ce tableau. Région. Grand Nord, Nunavut, Yukon, territoire du Nord-Ouest, Nord du Québec, Labrador. Été. Très court et frais, peu de précipitations. Hiver, très long et très froid, peu de précipitations. Région, prairies, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Été chaud, peu de précipitations. Hiver très froid, peu de précipitations. Région, montagnes rocheuses. Été chaud et humide en bas, frais en altitude. Région, sud-est du Canada, sud de l'Ontario et du Québec. Été chaud et humide, hiver froid et enneigé. Région. Province de l'Atlantique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve. Été frais et humide, hiver un peu froid et humide. Région. Côte ouest, Colombie-Britannique. Été frais, hiver doux et pluvieux. Conséquence. Une plante qui pousse bien en Colombie-Britannique gèlerait au Nunavut, et ce qui fleurit à Montréal ne survivrait pas forcément dans les prairies. Une zone de rusticité. Qu'est-ce que c'est? Pour savoir quelle plante pousse bien dans une région et surtout si elle survivra à l'hiver sans protection, le gouvernement du Canada a créé une carte qui divise le pays en zones selon le climat. Les zones de rusticité. Ces zones de rusticité sont déterminées selon les températures, surtout les températures les plus basses, les précipitations comme la quantité de neige, la durée de la période sans gel, la force du vent. Chaque zone est associée à un chiffre de 0 à 9 et parfois d'une lettre A ou B. Chaque zone est associée à un chiffre de 0 à 9 et parfois d'une lettre, A ou B. Dans la zone 0, le sol est toujours gelé et il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent pousser. Dans la zone 9, au contraire, le climat est doux même en hiver et beaucoup de plantes y poussent bien. La majorité des Canadiens vivent dans des zones de 3 à 6 où les hivers sont plutôt froids, mais où toutes sortes d'arbres et de plantes se plaisent beaucoup malgré tout. La carte des zones de rusticité est un outil très important pour les jardiniers et les cultivateurs. Tu peux la trouver sur le site web de Ressources naturelles Canada. On brasse les cartes. Cette année, le gouvernement a mis à jour sa carte de rusticité des plantes du Canada. Depuis 10 ans, le climat de la Terre s'est réchauffé et plusieurs zones du Canada sont devenues plus chaudes. Ça signifie que, dans plusieurs régions, on voit apparaître de nouvelles plantes. Mais ça veut dire aussi que certaines plantes poussent maintenant moins bien dans leur région habituelle parce qu'elles ont trop chaud. Le pavot arctique est de la même famille que le coquelicot. Il pousse dans la zone de rusticité 0A, qui correspond aux zones les plus froides du pays, Yukon, Nunavut, territoire du Nord-Ouest. Il est très résistant au vent et au froid intense. Dans la zone 9A, au sud de la Colombie-Britannique, on peut cultiver des arbres fruitiers comme des figuiers ou même certains palmiers. Dans la région de Montréal, qui est passée de la zone 5B à la zone 6A, il sera plus facile de cultiver des arbres fruitiers un peu frileux comme le pêcher ou l'abricotier. Dans certains endroits du Témiscamingue, on peut faire pousser des poiriers car la zone est passée de 2B à 4A. Est-ce que tu aides tes parents à jardiner? Quelle plante aimerais-tu pouvoir faire pousser dans ta cour ou sur ton balcon? Dix faits surprenants sur K-pop Demon Hunters. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 28 août 2025 dans les As de l'Info. Mélangeant musique pop sud-coréenne, scènes d'action et légendes surnaturelles, le film Les guerrières de la K-pop, K-pop Demon Hunters en anglais, est devenu un phénomène mondial dès sa sortie sur Netflix en juin 2025. C'est l'histoire d'un trio de chanteuses, Romi, Mira et Zoé, qui mènent une double vie, vedettes sur scène et chasseuses de démons en coulisses. Voici 10 anecdotes sur le film le plus populaire de l'été. 1. Une réalisatrice canadienne aux racines coréennes. L'autrice et co-réalisatrice du film est canadienne. Elle s'appelle Maggie Kang et elle vit à Toronto où ses parents coréens ont immigré dans les années 1990 quand elle avait 5 ans. Elle adore la K-pop depuis qu'elle est ado, mais a longtemps caché cette passion à ses amis. Ce film lui permet de faire connaître sa culture d'origine, avec ses chansons entraînantes, ses histoires de démons et sa cuisine alléchante. On a maintenant tous envie d'un bibimbap. 2. Les méchants sont des membres d'un boys band. Le groupe des filles s'appelle Hunter X. Leurs ennemis, les Saya Boys, forment eux aussi un groupe de K-pop, mais c'est un déguisement. En réalité, ce sont des démons. Leur but, devenir le groupe le plus populaire du monde en volant l'âme des spectateurs. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas vu le film, c'est révélé dès le début. 3. Que veut dire Saya? En coréen, Saya signifie tigre. Mais dans les légendes, ce mot peut aussi désigner des créatures, des esprits protecteurs et même des faucheurs d'âmes. Dans le film, le nom du groupe Saya Boys joue sur ces deux sens. Il évoque à la fois la puissance et l'agressivité du tigre, tout en rappelant les figures mythologiques coréennes. D'ailleurs, un drôle de tigre nommé Derpy joue un rôle très important dans l'œuvre. 4. Golden au sommet des palmarès. La chanson Golden, qu'on peut entendre dans le film, a grimpé jusqu'à la première place du Billboard Hot 100, le classement des chansons les plus écoutées aux États-Unis. Elle cumule déjà plus de 430 millions d'écoutes sur Spotify et ça continue de monter. 5. Le film le plus écouté sur Netflix. Avec plus de 236 millions de visionnements, le film est devenu le long-métrage le plus regardé de l'histoire de Netflix. Des événements karaoké ont même été organisés dans des cinémas pour permettre aux fans de chanter pendant les numéros musicaux. 6. Plusieurs voix pour un même personnage. Dans la version originale, en anglais, la voix parlée et la voix chantée ne sont pas interprétées par la même personne. Pour les dialogues, Arden Cho, Mei Hong et Yi Hyung-hoo prêtent leur voix à Rumi, Mira et Zoe. Pendant les chansons, on entend plutôt Ejayi, Audrey, Nuna et Rayami. Toutes ces artistes sont d'origine coréenne. 7. Plus haut. Toujours plus haut. Rumi et son incroyable note. Dans la chanson Golden, Rumi atteint une note très, très aiguë. Un La 5. C'est une note très difficile à chanter. Peu de chanteuses y arrivent. C'est à l'artiste Iye, qui fait la voix chantée de Rumi, qu'on doit cet exploit. 8. BTS a réagi. Dans la vraie vie, le groupe K-pop le plus célèbre est sans doute BTS. Et ses membres semblent aussi avoir succombé au film. Jungkook a confié avoir pleuré pendant la scène finale. Dans une vidéo en direct, il a aussi chanté Soda Pop, une des chansons des Saya Boys. Les actrices du film n'en revenaient pas. 9. L'Empire State Building aux couleurs du film. Le 22 août, l'Empire State Building, un bâtiment emblématique de la ville de New York, a été illuminé en or pour célébrer le succès du film. Cette illumination a été accompagnée de la chanson « Golden » qui veut dire « doré » en français. 10. Bientôt d'autres aventures? Face au succès planétaire du film, Netflix songe déjà à une suite. Une série ou même un spectacle musical sont aussi envisagés. On a déjà hâte. Et toi, as-tu vu les guerrières de la K-pop? Qu'est-ce que tu en as pensé? Sinon, comptes-tu le regarder? Un message d'Audrey Lise au sujet du racisme envers les Autochtones. Un texte d'Audrey Lise Roquervieux, paru le 2 septembre 2025 dans les As de l'Info. Et si je te racontais un peu ce que je ressens ces derniers temps? Quoi? Je m'appelle Audrey Lise. Je suis Innu et ces jours-ci, j'ai le cœur qui me serre. Depuis que le projet de loi 97 a été déposé, quelque chose a changé dans l'air. C'est un projet sur les activités dans la forêt, comme les coupes d'arbres. Mais les Premières Nations n'ont pas été consultées pour créer ce projet de loi. Pourtant, ce sont nos territoires traditionnels qui sont directement concernés. Là où nos familles ont grandi, ce sont des endroits où nos ancêtres ont marché, chassé, élevé leurs enfants, où nos familles vivent encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question d'arbres ou de bois. C'est une question de lien avec le Nitassinan, notre terre, de respect et d'écoute. Ce territoire, c'est une partie de nous. Des Autochtones ont décidé de manifester contre ce projet de loi. Ils jugent que les forêts sont en danger. Pour protester, ils bloquent les routes qui mènent aux chantiers des compagnies forestières, et cela crée des tensions entre les travailleurs forestiers et les manifestants autochtones. Tristement, ce conflit a entraîné une vague de racisme contre les Autochtones. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je le sens. On le voit dans les commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux, des gens qui répètent encore des idées fausses sur nous. Ils ne veulent jamais collaborer, ils bloquent tout, ils ont déjà assez d'avantages, ils ont tout gratuit, ils agissent comme des sauvages, etc., etc. Ils oublient que le droit de manifester existe pour tous au pays. Des enfants affectés. Encore plus malheureux. Ce climat malsain a des impacts chez des enfants de ton âge. Je vois de jeunes autochtones qui ont peur d'aller à l'école parce qu'ils se sont jugés et méprisés. Je vois des familles qui hésitent à se rendre dans des villes voisines par crainte de se faire dévisager ou dénigrer. Il y a des familles qui aimeraient aller au powwow de Pitsiwan et de Wimotassi en septembre. Ce sont deux communautés qui ne sont accessibles que par des chemins forestiers. Un chemin forestier, c'est une route de terre ou de gravier qui passe au milieu des arbres, loin des villes. Ce n'est pas une autoroute. On y croise surtout des camions qui transportent le bois qui provient de nos territoires et des animaux sauvages. Ces routes devraient mener à la célébration, à la danse et à la joie, et pourtant, plusieurs craignent maintenant d'emprunter ces mêmes routes parce qu'ils ont peur d'être intimidés par des travailleurs forestiers. À toi qui m'écoutes, tu sais, le racisme, même quand il est caché dans des lois ou des rumeurs, il blesse pour vrai. Tout ce que je souhaite, c'est que toi, entendant ceci, tu comprennes mieux. Le problème, ce n'est pas la forêt. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont même pas les désaccords. Le vrai problème, c'est quand on oublie d'écouter les autres, qu'on parle à leur place, qu'on décide pour eux et qu'on oublie que derrière chaque loi, chaque mot, il y a des humains derrière. Aujourd'hui, j'espère t'avoir appris quelque chose. Peut-être que demain, ce sera toi qui pourras corriger une fausse idée ou simplement rappeler aux autres qu'on est là, qu'on existe et qu'on a notre place. Parce qu'ensemble, on peut changer bien des choses et peut-être que ce sera toi qui feras la différence. Un jour, qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour aider à ce que tout le monde se sente respecté?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.